voix nue. Cette semaine, Guillaume Erner rencontre Philippe Val. Ce soir, Inter-Val.
Philippe Val arrive là où on ne l'attend pas, à la tête de l'une des principales radios de service public, France Inter, la boutique d'à côté. Voici comment les choses se sont déroulées.
C'est une vieille histoire. La première fois que j'ai été interviewé dans ma vie, j'avais 18 ans, c'était par José Arthur. Et depuis, France Inter m'a accompagné ma vie, pratiquement. Et France Culture aussi. J'ai beaucoup écouté ces radios et je les connais bien et je les ai fréquentées. Et puis ensuite, j'y ai travaillé. Et puis voilà. Et puis, Jean-Luc avait été directeur de France Inter. Et puis, il avait quitté Radio France dans des mauvaises conditions. En tous les cas, pour lui, psychologiquement, c'était très dur, parce que c'était sa maison, il avait fait toute sa carrière là-dedans, enfin bon. Et il voulait absolument y revenir, il voulait devenir président de Radio France, il a postulé. Quand on se voyait fréquemment, parce qu'on est très proches, enfin on est des amis proches, je dis, postule, il va y avoir un changement de président, ou pas d'ailleurs. Il a candidaté. À l'époque, comme c'était la nouvelle loi de l'audiovisuel que Sarkozy avait fait voter à l'Assemblée nationale, c'était Nicolas Sarkozy, le président de la République, qui devait nommer, proposer au CSA et aux chambres, le futur président de Radio France. Et Nicolas Sarkozy a rencontré Jean-Luc. Il y a quelque chose qui s'est passé entre eux, c'est... Qui dure encore aujourd'hui, ils se fréquentent pas spécialement, mais je pense qu'ils s'aiment beaucoup, pour des raisons qui les regardent l'un et l'autre. Ils ont beaucoup d'affection l'un pour l'autre. En tous les cas, il a nommé, Nicolas Sarkozy a nommé Jean-Luc, et Jean-Luc voulait qu'on revienne aussi en binôme à Radio France. Et voilà, je suis retrouvé directeur de France Inter, nommé par Jean-Luc Hess. J'ai préféré ce job à d'autres parce que c'est la seule fois de ma vie où on m'a proposé autant de travail, dans des journaux, à la télé. Mais là, je me suis dit oui parce que j'aime cette radio, j'aime cette maison, je la connais bien, je croyais bien la connaître. C'est pas pareil d'être chroniqueur ou d'être invité et d'être dans la machine, d'être un dirigeant de cette maison. Quand on est dirigeant de cette maison, on connaît une autre maison.
Une polémique naît, on dit qu'en fait le ticket est à l'inverse et que c'est vous, par l'intermédiaire de l'épouse de Nicolas Sarkozy, Carla Bruni, qui avait été choisie pour désigner en quelque sorte le président.
La réalité, elle est que c'est incroyable d'ailleurs d'avoir à se justifier de toutes ces choses, mais je connais Carla Bruni depuis longtemps. Avant qu'elle ne soit l'épouse du chef de l'État, c'était une amie. Et effectivement, quand Jean-Luc m'a dit « je veux candidater pour Radio France », comment je fais? Évidemment que je lui ai donné le contact pour avoir accès à Sarkozy rapidement. C'est tout. Et ils se sont vus et vraiment, ils se sont plus, quoi. Et puis, il a eu confiance dans Jean-Luc et il a eu raison, parce que Jean-Luc est quelqu'un d'une très grande loyauté.
Alors, loyauté...
La réalité, c'est que il s'est passé 5 ans où Jean-Luc n'a jamais eu le président de la République au téléphone pour une récrimination quelconque, ni aucun service de l'Élysée. Jamais. Je pense que ça n'est jamais arrivé dans l'histoire de Radio France. C'est-à-dire que, en général, ça appelle. Et quant à moi, qui avait des relations, comme on peut avoir, amicales, et donc on se voit, on dîne ensemble avec Carla, etc. Donc, s'il avait eu des trucs à me dire sur France Inter, Sarkozy, c'est pas le genre à se gêner. Hein. Jamais. Jamais, une seule fois, il ne m'a parlé de France Inter, sauf une fois. Il m'a dit, t'es sûr que tu veux virer Guillon, là? Parce que c'est la seule et unique fois pour me dire, pourquoi tu le vires, tu vas avoir des ennuis.
Alors, effectivement, vous avez viré deux comiques, vous avez viré Didier Porte et Stéphane Guillon. Pourquoi avoir décidé de les virer, Philippe Val?
Guillon, ça a été beaucoup... Jean-Luc s'en est beaucoup occupé. Parce que il disait une chose, quand on discutait, il disait, je vais faire ci, je vais faire ça. Et il faisait le contraire au micro. Et il profitait de la rumeur selon laquelle c'était un copinage entre Sarkozy, Hess et moi, etc., pour faire des trucs qui foutaient l'autorité en l'air. Et en plus, c'était tellement faux, c'était tellement... Bon, mais c'était à l'heure de plus grande écoute le matin. Donc, à un moment donné, bon, tu dis Stéphane, ça va, quoi, on a compris, mais... Mais il continuait, il faisait tout ce qu'il pouvait, quoi. Il disait, oui, non, mais... Puis le lendemain, c'était pire. Donc, au bout d'un moment, dehors, quoi. Voilà, ça va, quoi. Sinon, c'était ingérable, la maison. Toute la maison devenait ingérable. Quant à Porte, il a fait sa chronique de 8 heures en répétant 10 fois Sarkozy enculé. Donc, je l'ai pris dans mon bureau, je lui ai dit, t'es viré. Mais ça aurait été Macron enculé ou Hollande enculé ou Jean-Paul II enculé, je l'aurais viré de la même façon. À 8 heures du matin, on dit pas ça. Et puis même à une autre heure, d'ailleurs, quand on est à la radio, on s'exprime autrement pour le président de la République.
Mais on est chroniqueur, l'idée c'est de faire rire, de pousser le bouchon.
Oui, non mais bon, je me suis empoigné avec des hommes politiques de façon violente, mais des fois dure, mais j'ai jamais dit ça. C'est de l'insulte. Enfin, ça déshonore un peu l'auditeur. Puis c'est pas drôle. Enfin, je sais pas, il y a quelque chose qui va pas. Bosse ton texte. Trouve d'autres chutes, quoi. C'est quand même une facilité. C'est pas travaillé, ça. Porte, par ailleurs, est un garçon qui était capable d'écrire des chroniques satiriques, tout à fait. Mais ça, c'était... Alors lui, c'est pareil. Tous les jours, il en remettait un peu.
Parce que la défense de Didier Porte consistait à dire que c'était des propos rapportés. Puisque, donc, cette phrase, il la plaçait dans la bouche de Dominique de Villepin.
Non, non, mais... Il disait qu'il avait le syndrome de Tourette, en fait. C'était ça qu'il disait. Non, mais ça va, quoi. C'est bon. C'est pareil. C'est-à-dire, quand on discute avec un chroniqueur... Moi, je relisais pas les chroniques, je faisais confiance. J'ai mis à l'antenne votre écoute coûte que coûte, qui était bien plus trash que ça. Avec Zabou Bretman et Laurent Lafitte. C'était bien plus transgressif encore que ça. Ça, c'était juste toujours la même chose tous les matins, quoi. Mais la radio de service public ne peut pas taper tous les matins sur la même personne de façon grossière. La radio de service public est payée par l'argent de tous les Français, de droite, de gauche, du centre. Pas simplement des gens qui ont envie d'entendre Sarkozy enculé. Et on peut pas faire ça, c'est pas possible. Il y a un respect de l'impôt des gens.
Qu'avez-vous fait à France Inter, Philippe Val, lorsque vous en avez pris la tête ?
La première chose que j'ai faite, c'est de signer un contrat à Guillaume Gallienne pour qu'il fasse une émission dont je rêvais. Ça ne veut pas faire de mal, l'émission de lecture littéraire. Et j'étais vraiment content parce que je trouve que Gallienne est un super lecteur et que c'est tellement agréable samedi d'entendre cette émission qui dure encore, merci. Mais voilà, puis j'ai fait venir Amezen pour d'autres choses, Antoine Compagnon, je vous ai mis le matin pour faire une émission qui était excellente d'ailleurs. Et puis voilà, Cohen, le matin aussi.
Quel était votre projet pour France Inter et la manière
dont... Je voulais que ça soit du haut de gamme pour tout le monde. Je voulais qu'on puisse parler de Montaigne à des gens qui avaient jamais lu de Montaigne, mais que ça les intéresse et qu'ils y goûtent et qu'ils disent « Ah, je connaissais pas ce truc, mais j'aime bien ça, quoi ». Et donc j'avais demandé à Antoine Compagnon de faire 40 émissions sur Montaigne, et qui ont été un succès incroyable, puisque c'était un best-seller après le livre pendant 6 mois, c'était en tête des ventes. Donc on a été très très contents de toute cette série qui s'appelle « Un été avec ». Un été avec, il y a eu après Baudelaire, Proust, enfin, tout ça. Je rêvais, alors, que l'humour soit un humour comme je l'aime, c'est-à-dire que quelque chose se moque de soi. C'est pas un humour de moraliste qui juge les autres, un moraliste intelligent qui juge que les autres sont cons. Je voulais que ça soit, voilà, un humour peut-être très transgressif. D'ailleurs, j'ai eu beaucoup de problèmes avec mon émission d'humour, avec le CSA, avec le CRAN, avec le CRIF, avec le CFCM, enfin tout, j'ai eu tout le monde. Mais je m'en foutais, c'était très drôle, c'était tellement intelligent que ça n'offensait personne, sauf les imbéciles. Je voulais une radio brillante, culturellement, et surtout... qui s'adresse pas à une clientèle. Parce que France Inter, c'est une radio quand même qui a une clientèle et on a tendance à travailler pour sa clientèle. Et je pense que la radio publique ne doit pas travailler pour sa clientèle. Elle doit travailler pour tout le monde. Et alors c'est compliqué parce que les études de marché, elles vous aident à travailler pour votre clientèle et faire monter l'audience. Bon. Mais moi, j'ai balancé toutes les études de marché, toutes. C'est-à-dire que j'avais que ça sur mon bureau. J'ai tout foutu à la poubelle. Et j'ai dit, on va essayer de faire une radio sensible. Sans une cible ménagère de moins de 40 ou de 50, ou gauchiste, mélenchoniste, ou... non, on va essayer de parler à tout le monde. Alors évidemment, j'ai pas réussi, mais j'ai essayé. Et de temps en temps, il y a des choses qui ont marché. Les audiences étaient bonnes, donc ça marchait quand même. C'est plus compliqué de chercher à toucher n'importe qui. La radio publique, tout le monde la paye. Donc ça doit s'adresser à tout le monde, pas simplement à la gauche du PS.
Quels sont les souvenirs importants pour vous lorsque vous étiez à la tête de France Inter, Philippe Val ?
Oh, beaucoup. D'abord, des personnes, le savoir-faire des gens qui font la radio, la prise de son. Enfin, plus moi, je venais du spectacle, donc la prise de son, je connais un peu. Tout ça, c'était, j'admirais beaucoup ce travail. Parce que c'est vraiment un travail parfois d'orfèvre, pratiquement toujours très réussi. Donc j'ai beaucoup aimé ça. C'est très subtil. J'ai aimé, bon évidemment, le travail de certains producteurs. J'ai beaucoup aimé c'est pas pour être démago, mais ce qu'on appelle les atapros, c'est-à-dire les attachés de production, le travail qu'ils font, leur ingéniosité pour nourrir,
qui préparent
les émissions pour les producteurs. Et ils arrivent à trouver des trucs, ils ont un métier très difficile et très mal payé. Je me suis battu pendant 5 ans pour essayer qu'ils soient mieux payés. Ensuite, je me rappelle d'événements, quand j'ai voulu faire, pour l'anniversaire de l'appel du 18 juin, Radio Londres, à Londres. On a déplacé l'antenne à Londres, Crémieux Briac, enfin tous les anciens, les survivants, les Aubrac, on les a invités. Et on a refait Radio Londres une journée et j'ai trouvé ça vraiment superbe. On a fait ça aussi au cœur de l'Afrique. On n'avait jamais déplacé l'antenne. On était au Congo, on a fait 24 heures. C'était vachement bien. Voilà, on a fait venir pour la journée des femmes, 5 femmes de 5 pays arabes au moment des révolutions arabes pour parler de la condition de la femme dans les pays arabes. 5 féministes qu'on a fait venir du Yémen, de Tunisie, d'Égypte, d'Iran. Enfin, l'Iran, c'est pas un pays arabe, mais... Perse, et c'était formidable. Ces femmes étaient tout à fait admirables. Et on leur a donné l'antenne la journée. Voilà. Il y a eu les 10 ans du 11 septembre à New York, qui ont été vraiment un grand moment aussi, parce que j'avais demandé à ce qu'on invite évidemment des personnes autorisées pour parler du terrorisme, pour parler de tout ça. Mais je voulais aussi qu'on entende des victimes de tous les pays. Et j'avais fait faire des reportages, des petits reportages, dans tous les pays où il y a eu du terrorisme, que ce soit l'Afghanistan, la Russie, l'Allemagne, l'Italie, la Chine, le Japon, dans le monde entier. Et on avait fait des petits formats de 2-3 minutes où on entendait quelqu'un, un rescapé d'un attentat terroriste, parler et dire comment était sa vie après. Et voilà, on a fait des tas de trucs. C'est formidable, la radio publique, parce que c'est pas commercial, on n'a pas les marques sur le dos qui nous disent faut pas parler de ça, sinon on retire la pub. On est quand même d'une liberté magnifique. Et puis les audiences, ça va, ça vient, mais il n'y a pas tellement d'enjeux commerciaux. Donc on peut se permettre beaucoup de créativité, beaucoup, beaucoup de créativité. On peut faire des choses qu'on peut faire sur aucune autre radio.
Par exemple, alors vous avez cité un certain nombre de choses.
Il y avait une émission de nuit qui n'a pas pu durer longtemps parce que c'était trop de travail, mais que j'ai trouvé exceptionnelle. J'avais mis une journaliste que j'avais embauchée à Charlie, d'ailleurs, Agathe André, qui a fait une série d'émissions de nuit tout à fait scandaleuses. Sur la sexualité aujourd'hui, les rapports amoureux, humains. J'ai eu un coup de fil du CSA, du président de la commission radio, hors de lui, me disant « Je veux que t'arrêtes cette émission ce soir même !» Je dis « Mais qu'est-ce qui te prend ?» Il me dit « Parce que dans le quart des enfants aux Antilles, elle passe à 8h du matin, il y avait une émission, je parlais de la sodomie. » Donc à 8h du matin, dans le quart scolaire, évidemment, avec le décalage horaire, il y avait la sodomie, bon, ça marchait pas bien. Bon. Donc... j'ai fait bouger le satellite pour que on décale l'horaire. J'ai réussi dans la journée à faire un décalage de diffusion sur cette émission pour que l'émission continue. Mais voilà quoi. Il y a eu plein de trucs bien quoi.
Des regrets, Philippe Val ?
Oui, j'ai des regrets. Oui. Parce que il y avait tellement de choses à faire. J'aurais voulu m'occuper davantage de la rédaction. parce que c'était un peu mon vrai job. Enfin, j'avais appris à diriger une rédaction. Donc, puis j'ai voulu foutre la paix au directeur de rédaction. J'ai pas voulu trop les cornaquer, avoir l'air de leur retirer du pouvoir, avoir l'air de les parasiter dans leur job. Mais mon regret, enfin, je serais resté 2 ans de plus, je me serais beaucoup occupé de la rédaction. C'est-à-dire que je serais venu animer à ma façon un peu. J'ai reculé ça de mois en mois. Et puis finalement, au bout des 5 ans, je ne l'ai pas fait. Et c'est un de mes grands regrets, ouais. Oui, oui. Je considère même presque plus qu'un regret.
Votre départ de France Inter, Philippe Val, comment ça se déroule? Qu'est-ce que vous décidez de faire au moment où le CSA choisit un autre président? Jean-Luc Hesse s'en va, il nomme Laurence Bloch, qui était votre adjointe.
Oui, j'étais au courant, Laurence me l'avait dit, et je l'ai encouragé à prendre le poste. Et puis Mathieu Gallet m'a téléphoné pour me dire qu'il voulait mettre quelqu'un d'autre. J'ai dit, il n'y a pas de problème, c'est la règle du jeu. Alors là, vraiment, c'est comme à Charlie, les postes appartiennent à personne. J'ai aucun problème avec ça. Donc j'ai accepté ça vraiment sereinement. C'est la décision du président, point à la ligne, quoi. J'étais content de partir parce que... Bizarrement, mais ça c'est du fond du cœur que je dis ça, c'est-à-dire que depuis que j'ai 18 ans, je vis matériellement de ce que j'écris, et j'ai jamais vécu d'autre chose, sauf pendant les 5 ans où j'ai été patron de France Inter, où ce qui demandait beaucoup de travail. Alors au début, mes copains, mon éditeur, ils me disaient, faut quand même que tu continues à écrire, donc j'ai commencé à écrire, mais la nuit, quoi. Et j'étais très très fatigué, je dormais plus assez, je me suis mis à maigrir, etc. D'ailleurs, de France Inter, le bruit a commencé à courir que j'étais très malade, ce qui n'était pas vrai, j'étais juste fatigué parce que j'écrivais la nuit. Et puis finalement, c'était trop crevant, j'ai dû arrêter d'écrire pendant ce temps où j'ai été directeur de France Inter. Donc, dès que je suis sorti de France Inter, j'ai repris mon job. J'ai repris mon métier qui est écrivain. J'ai toujours gagné ma vie comme ça. Depuis, je fais mon travail naturel, je dirais.
Un événement plus personnel, mais important dans votre existence, vous êtes devenu père.
Oui. Oui, c'est vrai. À cette époque-là, quoi, juste à ce moment-là. Il est né quand je suis parti. Tardivement, puisque j'étais un peu trop vieux pour devenir père. Et j'ai découvert cette chose très étrange. Parce que on donnerait sa vie pour, au fond, quand on dit je donnerai ma vie pour toi, ma vie, etc. On dit n'importe quoi. C'est difficile de dire la vérité. On a un instinct de conservation tel qu'on donne sa vie pour personne. Enfin, notre vie est trop précieuse. Jusqu'au jour où on a un enfant. Là, tout d'un coup, ça change parce que c'est comme si ma propre vie de passer au second plan. En plus, ma femme travaille beaucoup, donc je m'en occupe beaucoup. Et je suis comme une espèce de mère juive avec cet enfant. Je m'en occupe vraiment beaucoup, quoi. Voilà. Il a précisé un truc en moi. Il m'a aidé à comprendre quelque chose. Que être aimé dans la vie, c'est très important parce que si on n'est pas aimé, c'est pas drôle. On se sent pas estimé. Mais c'est presque secondaire. Enfin, je dis pas que c'est pas important, mais c'est en dessous. Aimer est plus important que être aimé. Et quand on a un enfant, on sent en soi un truc, on sent que c'est ça le vrai moteur de l'existence quotidienne. Aimer est plus important qu'être aimé. Et un enfant, ça révèle ça. C'est plus important d'aimer un enfant que d'en être aimé, je pense. Parce que ça fait fonctionner en nous quelque chose de très puissant, de potentiellement très créatif. Intellectuellement, c'est quelque chose de, pour moi en tous les cas, c'était quelque chose de très fort.
En tout cas, c'est étonnant pour ceux qui vous connaissent, Philippe Val, parce que, à l'instar d'ailleurs de beaucoup de gens de chez Charlie, le refus de l'enfant était quelque chose d'assez constitutif chez vous, et il a peut-être fallu que vous rencontriez Bérénice pour que vous décidiez d'avoir cet enfant, d'avoir Tom, puisque c'est ainsi qu'il se prénomme.
Oui, oui, oui. Et puis Bérénice était sans doute une femme qui m'a donné, sinon envie d'avoir un enfant, ça ne m'interdisait pas d'en avoir. Enfin, sa personnalité, faisait en sorte que ça. Et puis après, j'ai toujours eu besoin de protéger. J'ai toujours eu des animaux dont je me suis occupé avec un soin immense parce que j'ai une immense pitié, une immense compassion pour les animaux. qui est presque gênante, parce que c'est un... Et là, c'est pire avec les enfants. Enfin, le problème, c'est que cet amour nous rend vulnérables. On a tellement peur qu'il leur arrive quelque chose, tellement peur qu'ils souffrent, tellement peur, et pourtant, on sait qu'ils vont souffrir. On sait que la vie fait pas tous les jours des cadeaux de Noël. On sait que la tragédie est jamais loin de la joie. Et voilà, c'est l'avers et le revers d'une médaille. La joie de vivre et la tragédie.
Bon, la tragédie, ça nous conduit à janvier 2015 et à l'attentat contre Charlie Fibal.
C'est le basculement dans un autre monde. C'est-à-dire, il y a quelque chose en nous qui change, qui n'est plus jamais le même. Et des fois, je le regrette. Mais ça, c'est pareil. On se rend compte de la façon dont on aime les gens quand ils sont assassinés. Comme ça, ça fait passer un film dans la tête qu'on ne sollicite pas, qui revient quand il veut. C'est très bizarre. C'est, par exemple, j'ai l'humeur facilement irritable, mais ça dure jamais longtemps. Je peux mépriser quelqu'un, mais 2 jours. Après, j'ai toujours le doute. Je me dis peut-être il est pas pire que moi. Pas au fond, je vaux pas plus cher. Enfin bon, on se dit tous ces choses que quand on se croit capable, supérieur, je sais pas quoi, mépriser quelqu'un, c'est un drôle de truc, quoi. Et avoir de la rancune, vouloir se venger, avoir de la rancune, c'est vain. Voilà, Borges, il dit, le pardon est aussi vain que la vengeance. Mais après les attentats, je suis devenu ce que je n'étais pas. Alors peut-être que c'était en moi embryonnaire et refoulé, mais je suis devenu rancunier et méprisant. J'ai du mépris et de la rancune en moi, je l'avoue. Je ne pourrais pas écrire un livre comme Vous n'aurez pas ma haine, par exemple. C'est très bien tout ça, mais moi, j'y crois pas à ça. Je pense qu'on a de la haine et de la rancune. Alors, on vit pas avec tout le temps. Je ne me vengerai pas activement. Je ne ferai pas un geste pour me venger, mais l'envie de le faire, oui. L'envie que
alors
ça
vous
soit.
Vous pensez à qui lorsque...
Je pense aux terroristes. Et je pense à ceux qui ont eu des discours qui m'ont déplu sur le terrorisme et sur l'islamisme. Par exemple, au livre qui est sorti après de Todd, tout ça, j'ai du mépris pour Emmanuel Todd. Parce que, après les attentats, non seulement on était effondrés, on était tellement ensemble, tous les jours, pendant tellement d'années, et tout d'un coup, tout ça se termine en tragédie, c'est très difficile à expliquer. Mais c'est très horrible. On est très seul. Il y a eu une campagne de presse. Il y a eu une partie de l'équipe de Charlie de l'époque que je ne connaissais pas d'ailleurs. Enfin, je les connaissais pas tous parce qu'ils étaient arrivés après mon départ. Qui ont fait des choses dégoûtantes. Pendant que Chris était encore à l'hôpital et souffrait avec une balle dans l'épaule, ils ont fait une mutinerie pratiquement le lendemain de l'attentat. Et puis ils ont sorti des histoires de fric, pas les histoires de fric de transmission. Mais des histoires de dons, enfin, alors que Ri, c'est un type, mais vétilleux sur ces histoires-là, enfin, irréprochable. Il le sera jamais parce qu'il est comme ça, quoi. Bon. C'était horrible, ce qui s'est passé. Je leur en veux beaucoup. Enfin, là, j'étais pas concerné. Mais après, ils ont ressorti les histoires de la transmission des actions. C'est ressorti dans la presse. Et je sais pas, chez Plenel ou chez Cinebdo, je sais pas, enfin. Et Richard et moi, on était tellement assommé. En plus, on a reçu des sauts de diffamation sur la tête dans les jours qu'on suivit les attentats, alors qu'on disait rien, on faisait de mal à personne, on n'était plus rien là-dedans. Mais ils en ont profité pour ressortir ciné, machin, tout ça. Et ça, j'ai trouvé ça, mais incroyable. Je ne l'ai pas pardonné. Enfin, je ne l'ai pas pardonné, mais je ne me retourne pas vers ça. Hein. Je les ignore, je regarde ailleurs. Mais bon.
Le tragique, je ne sais pas quel terme employer, mais il faut aussi dire, Philippe Val, qu'il y avait eu une attaque déjà contre Charlie. Il faut dire aussi qu'une partie de l'équipe, et en particulier vous-même, viviez sous protection depuis un certain temps, ce qui veut dire que le risque, qui, là aussi, c'est quelque chose auquel on s'est habitué aujourd'hui, mais ce qui veut dire que voilà, des journalistes, quelqu'un comme vous, vit avec une protection en permanence depuis combien de temps ?
12 ans. Et par moments, une très très grosse protection. Récemment, par exemple, j'étais sous une protection énorme. Et voilà, parce que il y a quelque chose qui s'est produit dans ce pays. On n'a pas, une fois de plus, on n'a pas fait fructifier l'affaire des caricatures. Et aujourd'hui, les gens qui disent le terroriste, qui n'a rien à voir avec l'islam, faut pas stigmatiser, enfin toutes ces, ou alors c'est un loup solitaire, machin, enfin toutes ces conneries qu'on entend quand il y a un attentat, ou alors quand ils disent c'est des humiliés, faut être du côté des humiliés. Ils ont plus de contradicteurs sérieux. Parce que les contradicteurs sérieux à ça, ils sont sous protection policière. Donc le débat démocratique sur le problème de la laïcité et de la liberté de conscience ne peut plus avoir lieu en France de façon naturelle et démocratique puisque nous sommes réduits au silence par la terreur. Ça veut dire que j'attends que le président de la République s'exprime sur la question des libertés menacées parce que cet empêchement que nous avons de nous exprimer librement, nous, est une atteinte grave à la souveraineté nationale. C'est une atteinte à la souveraineté. Et l'atteinte à la souveraineté, c'est une question présidentielle. Enfin, quand vous êtes sous protection policière, vous ne dites pas les mêmes choses que quand vous allez et venez librement, comme vous voulez, parler sans conséquence. Vous pouvez dire machin est un con, truc vaut rien, il n'y a aucun problème, vous risquez rien. Mais quand vous risquez votre peau, parce que vous voulez parler de la condition des femmes, de la montée de l'antisémitisme, ouvrez un débat là-dessus, sur la montée de l'antisémitisme. Vous allez vous retrouver sous protection. Comment ça se fait qu'on laisse un pays comme la France devenir un pays où on est sous protection quand on parle de ça? Ça veut dire qu'il y a une vraie atteinte, je répète, à la souveraineté. C'est un très grave problème.
Vous racontez ça parce que c'est suite au débat que vous avez ouvert sur l'antisémitisme que votre degré de protection policière, c'est-à-dire le degré de menace dont vous êtes la victime, s'est considérablement accru, Philippe Val.
Au bout du compte, si j'avais à rendre grâce dans ma vie, je rends grâce avant tout, mais je dis pas ça par conformisme, mais c'est les livres, c'est la littérature qui m'a ouvert à la, même à la musique, à la peinture, à tout ça. C'est, pour moi, c'est passé par la littérature. Et je n'ai rien fait qui n'ait pas essayé de servir ça, de servir cette plus que les idées théoriques. Je pense que ce qui fabrique ce qu'il y a de mieux en nous, c'est quand même le musée imaginaire, comme aurait dit Malraux. C'est vraiment ça. C'est vraiment à ça que ma vie s'est accrochée dès que j'étais petit, quoi, dès que j'ai été gosse. J'étais pas un idéologue. Je voulais dire quelque chose qui sonne et lire des choses qui chantent. C'était mon but ultime.
Merci beaucoup, Philippe Val, de vous être livré ainsi durant ces 5 épisodes d'À Voix Nue.
Fin de cette rencontre de Guillaume Erner avec Philippe Val. À Voix Nue, réalisation Lionel Quentin, prise de son Philippe Mercher, coordination Claire Poinsignon. À Voix Nue s'écoute en ligne et se podcast sur franceculture.fr. We'll be right back.